Nous avons un exposé qui, je vois, attire beaucoup de gens et j'en suis très très content, donc qui est sur l'observation de la Terre. Le système Pléiade est totalement opérationnel. C'est ça le sujet. Alors, ça va nous être présenté par Alain Glaise, qui est chef du projet Pléiade au CNES, ou qui était, je ne sais pas, je vais voir. Ah, il y est toujours. Il y est toujours. Donc, Alain Glaise est diplômé de l'École nationale supérieure de mécanique et microtechnique de Besançon. Puis ensuite, il a fait un master dans une école célèbre en 84 à Superhéros. En 85, il démarre sa carrière chez Crouzet, qui a fait, je dois dire, sur Spotin, beaucoup de l'électronique, peut-être la moitié de l'électronique, je ne sais plus exactement, mais de la moitié de l'électronique de Spotin. Crouzet, pour développer des logiciels de vol embarqués, mais sur avions, missiles et satellites. En 87, il rejoint le CNES sur le projet Spot 4. À ce moment-là, moi, j'avais déjà quitté le Spot. Et on ne s'est pas croisé. Au sein duquel, vous évoluez sur plusieurs postes techniques, quelques bases de données système, responsable commande contrôle, interface système et segment sol de contrôle, puis responsable des essais de qualification du système. En 98, il prend la responsabilité système de la suite du système Spot. Et la suite du système Spot, c'est quand même un peu Pléiade. Hein. Okay. Et en 2000, vous devenez donc responsable du programme d'observation de la Terre haute résolution Pléiade. Et depuis 2011, vous êtes chef de projet Pléiade et la responsabilité de tout le service d'observation haute résolution au sein de la sous-direction des projets orbitaux du CNES. Voilà, donc je vous ai présenté et maintenant vous allez présenter votre bébé, je pense. Voilà. Merci.
Donc effectivement, je vais vous présenter le bébé, hein, c'est pas que mon bébé, c'est le bébé de Toulouse et du CNES et des industriels. Hein. Donc je vais vous présenter Pléiade. Merci d'être venus si nombreux, ça fait plaisir effectivement de voir une salle au comble. Bonjour. Et donc vous avez devant vous une vue d'artiste de Pléiade. Par contre, la photo qui est dessous, c'est pas une vue d'artiste, c'est une des images qui a été prise par Pléiade 1A peu de temps après son lancement. Donc, Pléiade, c'est deux satellites. Donc, on les a mis à poste en 11 mois et demi. J'ai mis 11 et demi parce que c'est vraiment pas un an, c'est 11 mois et demi. Donc, à gauche, vous avez le premier qui est sous son portique, là, en fait, sous la coiffe avec le portique qui recule, lancé donc par un Soyouz à Kourou. C'était le vol de VS numéro 2, le vol Soyouz numéro 2 à Kourou. Et un an après, alors oui, pour la petite histoire quand même, c'est ce gros tas de ferraille que vous voyez autour, là, qui s'appelle le portique en fait, qui nous a mis en retard de 2 ans sur le programme. Donc on avait les satellites qui étaient prêts et vraiment disponibles, prêts à être lancés. Et par contre, on attendait le pas de tir, ce qui est quelque chose d'assez atypique dans nos programmes. Hein, donc là, on attendait le pas de tir, même pas le lanceur. À droite, vous avez le dernier vol, hein, donc le vol VS-04. Donc c'est le quatrième Soyouz. Et donc on est parti cet hiver, le 2 décembre. Le deuxième satellite a été lancé, avec un jour de retard d'ailleurs à cause du lanceur. Mais ça, c'est pas très grave. Donc je ne vais pas vous parler lanceur, je suis là pour vous parler satellite et puis système d'observation de la Terre. Et essayer de vous faire rêver. Si vous voulez que je vous parle lanceur, ça va être plus difficile pour moi. Alors Pléiade, contexte programmatique, donc c'est un système dual d'observation de la Terre. Alors dual, ça veut dire qu'il va servir à la fois les intérêts de la défense et des civils, donc fournir des images pour nos amis de la défense. Et quand on parle des civils, ça va être tout ce qui est civil, institutionnel, scientifique et commerciaux bien sûr. On l'a développé en coopération européenne, coopération entre la France qui apporte 90% hein, du budget du CNES, hein, et la Suède, la Belgique, l'Espagne et l'Autriche qui apportent à peu près respectivement 4%, sauf l'Autriche qui est un petit peu moins, beaucoup moins. Ça ne veut pas avancer. Si, le voilà. Alors pour les anciens, je vous ai mis une planche de spot à Pléiade. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de différences entre le système spot que vous avez à gauche, spot 1, spot 2, spot 4. Moi je suis arrivé là, spot 4, hein, spot 5, et puis Pléiade. Donc on voit déjà que c'est pas tout à fait la même forme. On avait à gauche de la figure de la famille spot des satellites qui étaient assez gros, hein, qui faisaient dans les 4 tonnes, hein, voire plus pour spot 5, avec un panneau solaire en U qui était pointe pour les derniers, et puis souple pour les premiers, qui était toujours pointé vers la Terre, orienté vers la Terre. Et ce panneau solaire au bout d'un bras, bon, ben, si on veut faire bouger la caisse du satellite pour aller prendre les images, ce panneau solaire se met à battre des ailes et donc ce n'était pas vraiment fait pour ça. Ça, c'était Helios. Pléiade, vous le voyez à droite, donc les deux Pléiades, c'était une architecture beaucoup plus compacte, hein, avec un satellite qui est rigide, des panneaux solaires qui sont fixes autour de cette caisse, on appelle le bus en fait, hein, et on va mettre tout ça en mouvement et je vais vous faire voir comment, et comment on fait des images avec ça. Alors en termes de résolution, ce n'est pas du tout la même gamme. Donc Pléiade, c'est une fauchée de 20 km avec un seul instrument qui fait de la résolution, très haute résolution, 70 cm on a dit. Hein. Donc 70 cm, ben, on voit des détails de la taille d'une cheminée, on voit des marquages au sol, on voit des choses comme ça. On ne voit pas plus résolu que ça, hein. Mais c'est déjà pas mal. Spot 1 à 4, c'est du 10 mètres. Spot 5, c'est du faux 2,50 m, c'est du 3,20 m en fait, pour être honnête. Hein. Mais bon, allez, 2,50 m. Or, chacun embarque des canaux dits multispectraux, hein, XS, hein, donc pour pouvoir coloriser ces images qui sont fournies en haute résolution en noir et blanc. Vous avez en dessous donc l'échelle des temps. Donc l'échelle des temps qui nous montre qu'on a une trentaine d'années en fait, d'observation de la Terre derrière nous, en fait, hein, et j'espère beaucoup plus devant. Donc Spot 1 a démarré en 86, Spot 2 en 90, Spot 3 en 93, Spot 4 en 98. Spot 5 en 2002, et puis il y a eu un gros trou, vous le voyez, donc ce gros trou qui nous amène donc pour Pléiade 1A en 2011, fin 2011, et l'autre fin 2012. Gros trou dû essentiellement à ce glissement planning qu'on a eu sur le lanceur, mais aussi quelques difficultés, mais ceci dit, c'est pas très grave. Pourquoi ça n'avance pas? Le voilà. Les missions principales de ce satellite, de ce système, en fait, c'est des missions qui touchent la haute résolution, donc on va avoir bien sûr des missions de défense, reconnaissance, mouvement de troupes, tout ce qui est associé à du guidage, des choses comme ça. Sécurité civile également, cartographie bien sûr, quand on a la résolution qu'on a, les cartes, l'IGN peut commencer réellement à utiliser ce programme-là. Ensuite, on va avoir toute une couche en fait de missions de type risque géophysique, de type hydrologie. Vous avez à droite par exemple un exemple de risque, en fait, c'est un cyclone, je vais vous le détailler un petit peu après, qui a eu lieu sur Haïti, et donc on va voir ce que peut faire Pléiade là-dessus. Et puis également, tout ce qui va être les ressources renouvelables au sens large, géologie, ressources minières, environnement marin, suivi de côtes, etc. Alors, je vais prendre un autre micro, parce que je ne vais pas y arriver.
Est-ce que comme ça va? Ah, ben voilà, vous avez bien fait de me dire. Donc, je recommence pas, malgré tout. Les missions principales, vous les avez là. Toutes les images que vous voyez là, sauf la carte, c'est des images Pléiade. Alors, on va en voir quelques-unes. On y va. Donc, premier exemple, c'est l'utilisation de Pléiade dans le cadre de risques environnementaux, risques naturels. Donc, Pléiade est entrée également dans ce qu'on appelle la charte internationale, les agences spatiales, donc, dont le CNES, mettent à disposition leur système pour pouvoir aider en cas de catastrophe naturelle. Donc là, c'est pour vous illustrer très rapidement ce qu'on arrive à faire avec nos images et la réactivité de Pléiade. Le cyclone, il a eu lieu fin octobre, le 28 octobre, la charte a été déclenchée. Et deux jours après, le 2 novembre, on avait notre première image, qui est l'image de droite. Sachant qu'on avait également des images avant le cyclone, par chance en fait, hein, donc on avait des images qui étaient prises le 19 juillet, on a pu faire des cartographies de changement, et on observe en fait tout ce type d'informations, déplacement de berges, destruction de bâtiments. Je vous le fais voir dans un film, s'il veut bien se lancer. Alors le film, par contre, sur ce bazar, c'est parce que je suis désolé, mais c'est un Macintosh. Et j'avoue que c'est pas ma tasse de thé. Et nous avons des problèmes, la technique nous lâche. Hein. Donc, où est Haïti? Le voilà. On est obligé de le lancer à la main, alors qu'avant, normalement, ça devait se lancer dans le diaporama. Oui. Ça aurait dû. La vidéo n'est pas sur Internet, elle est sur le disque. La voilà. Est-ce qu'elle a démarré? Non. Elle ne marche pas. Si. Plein écran, vous l'avez où sur un Mac là? À droite, ici, hein, c'est ça? Non. Oh, il y a celui-là, là? Alors, je vois qu'il y a des habitués de Macintosh. On n'a pas perdu grand-chose, vous inquiétez pas. Donc, vous avez le survol, en fait, image avant, à gauche, image après, à droite. Et vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Donc, la rivière a débordé, elle est partie sur la droite avec le cyclone. Ce qui est intéressant, c'est que la résolution de Pléiade, là, nous permet de très facilement, en fait, d'aller classifier les bâtiments et de repérer, c'est le CERTIT qui nous a fait ça, de repérer les bâtiments qui ont été détruits. Donc là, on voit que le lit de la rivière est parti sur la gauche, en fait, embarquant tout un tas de bâtiments. Donc vous voyez un petit peu le type d'application que ça peut amener. Donc on a cette capacité en fait à pouvoir faire des cartes de changement avant après à des résolutions qui maintenant commencent à sérieusement intéresser la sécurité civile, puisque ça va permettre de déplacer des secours, d'aller pouvoir également mettre en place des corridors humanitaires, voir si les aéroports sont en, les infrastructures, les routes, les aéroports sont en bon état ou pas. Vous voyez quand même que les bâtiments étaient quand même construits un petit peu près du lit de la rivière. Et puis bon, le lit, il a quand même pas mal bougé. Bon, ça c'était donc pour vous expliquer une première application. Alors on va essayer de le fermer. En haut à gauche, c'est rouge, c'est ça? Les McPhil, là, hop. Je reviens sur ça. Ça marche. Bien. Un petit retour sur nos satellites, comment ils volent. Donc pour ceux qui ne sont pas très familiers, ce sont des orbites dites polaires. Donc c'est une orbite qui passe par les pôles, qui est télésynchrone, donc qui va toujours avoir un angle constant par rapport à la direction du Soleil. Et normalement, il y a un film qui ne se lance pas. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas faire sans arrêt des allers-retours sur les films. Donc ce film, on voit se dérouler en fait sur ce plan de l'orbite qui est dessiné en bleu ciel. On voit passer Pléiade 1A, Pléiade 1B avec une fauchée en fait, une emprise au sol. Et donc on imagine en fait que ça avance. Donc c'est une technologie de push-broom. Donc on a des détecteurs linéaires qui viennent en fait balayer le paysage et on prend les images ligne à ligne. Donc c'est un petit peu ça que je voulais vous illustrer. Mais également le fait qu'on a positionné les deux satellites à 180 degrés l'un de l'autre. Et ça, on le voit sur la carte à côté. De telle sorte que les traces se complètent. Alors vous avez les traces qui sont faites en fait sur les orbites qui descendent par Pléiade 1A, qui est le bleu par exemple, et vous avez entre les deux, le deuxième satellite qui est positionné à 180 degrés vient boucher les trous du deuxième. Donc c'est ces deux satellites qui nous permettent, avec un dépointage en fait de la ligne de visée, d'accéder à tout point du globe, y compris à l'équateur, et c'est ce qui va nous donner notre revisite à un jour avec le système à deux satellites. Alors on a également le deuxième satellite qui est là pour également doubler les capacités d'acquisition. Alors pour information, Astrium, qui a développé Spot 6 et Spot 7, vient mettre ces deux satellites en croix par rapport à Pléiade, à la constellation Pléiade, et donc on va avoir une constellation encore plus réactive avec les deux Pléiades et les deux Spot 6 et 7 qui vont donc travailler, on va dire, en tandem et donc faire quelque chose, un vrai système vraiment, on va dire, complémentaire quoi, entre du 2 mètres de Spot 6 et du 70 cm de Pléiade. Alors, est-ce que ça va vous avancer? Voilà. Alors, les principales caractéristiques de Pléiade. Donc, je vous ai parlé de résolution 70 cm, on a dit en pancro. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pancro? Donc, ce sont les bandes spectrales qu'embarque notre système, notre satellite. Il embarque une bande spectrale très large qui vient traverser, donc qui vient traverser tout le spectre quasiment, hein, de là jusque là. Vous voyez la souris là-bas? Oui, c'est bon. Et puis, quatre bandes couleurs qui sont bleues, vertes, rouges et proches infrarouges, c'est celui-là, hein, qui vont nous permettre en fait d'accéder à des réponses spectrales un petit peu différentes. La fauchée de notre satellite, c'est-à-dire la largeur de la prise de vue, est de 20 km. Et donc, quand on est à 70 cm en résolution, ça veut dire qu'on embarque 30 000 pixels sur la ligne, en fait, et qui après vont se dérouler en colonne. Quoi d'autre? Donc, la capacité. Aïe. Capacité de revisite, je vous l'ai dit, accès quotidien à tout point du globe, on l'a vu sur la planche précédente. Et nous avons également un système qui s'est voulu assez réactif, donc au moins de 24 heures entre la demande d'image et la distribution. Alors on est bien meilleur que ça, surtout qu'on a introduit un mode qui s'appelle le direct tasking, alors c'est un terme barbare en anglais, qui permet en fait de programmer le satellite sur certaines stations étrangères directement au lever du satellite sur la station, programmer ça, et ensuite donc on monte le message de programmation, il exécute sa programmation dans la foulée. Donc là on a une réactivité qui est diabolique, puisque on est dans l'ordre de grandeur de l'heure entre le dépôt de l'image et la réception de l'image par l'utilisateur sous la station. Les bandes spectrales qui sont là donc, vont nous permettre, les bandes couleurs, de coloriser l'image en noir et blanc. Alors j'ai quelques exemples pour vous montrer que les bandes sont bien choisies. Voilà une des premières images qui a été prise par Pléiade 1A, où on voit que le bleu est joli. Donc c'est Bora Bora. Vous avez ici, alors, on n'est pas du tout à pleine résolution, hein, c'est juste pour faire du poster. Ce que je vais vous faire voir derrière, c'est plus... Si ça veut marcher, voilà. C'est moins intéressant d'un point de vue esthétique, puisqu'en fait, c'est les incendies qui étaient l'année dernière en Catalogne. Donc là, vous avez une image en couleur naturelle d'un incendie. Donc on voit du vert, de la forêt, et on voit du noir. Et on a beaucoup de mal à se dire qu'est-ce qui a brûlé, qu'est-ce qui n'a pas brûlé. Donc je vous montre l'image en fausse couleur. Donc quand on utilise cette fois-ci le canal proche infrarouge qui répond à la végétation, vous voyez ce qu'on obtient. On obtient la végétation qui est en rouge à la spot en fait. Mais par contre, ça permet d'avoir clairement une cartographie des zones incendiées. Et c'est beaucoup plus facile à interpréter pour ce type de thématique. C'est la seule image que je vous montrerai en proche infrarouge, bien qu'on acquiert systématiquement toutes les images avec tous les canaux. D'un point de vue communication et poster, c'est quand même plus joli de les montrer en couleur naturelle. Donc profitez-en bien, c'est la dernière. Alors les satellites Pléiade, ils sont bien différents de Spot. Donc vous l'avez vu, on n'a pas à ces résolutions-là la possibilité d'introduire un miroir de changement de visée comme on l'avait sur Spot. Donc on est obligé d'avoir un télescope qu'on va dépointer et donc aller accéder à nos images en basculant la totalité du satellite. Donc on est obligé d'avoir une conception du satellite qui est orientée agilité. Qui dit orientée agilité dit une certaine compacité du satellite. Plus il va être léger, surtout moins il aura d'inertie, plus il sera facile à actuer. Éviter d'avoir des panneaux solaires qui soient souples. Donc là, on a des panneaux solaires qui sont fixes, rigides, fixés solidement sur le satellite avec des tirants qu'on ne voit pas dessous, même si ça, c'est une vue d'artiste qui n'est pas tout à fait la bonne. Et puis derrière, il faut motoriser cet engin pour pouvoir basculer la caisse avec avec beaucoup de couple. Et c'est là qu'il y a une grande nouveauté, une première européenne sur ces satellites. C'est un système de contrôle d'altitude à actionneur gyroscopique. On va y revenir sur la planche d'après. Ensuite, couplé à ça, on a un seul instrument qui est au milieu, en fait, un instrument haute résolution, qui va être inclus en fait, à l'intérieur du satellite, toujours dans un but de minimiser les inerties. On va le voir ici. Donc là, on a une vue éclatée. Vous voyez en fait le télescope, qui démarre ici en fait, avec son baffle là, et qui vient jusque ici. Et vous voyez autour, bon, ils sont ouverts là, vous voyez les murs en fait qui vont se refermer autour de la structure en portant d'autres équipements de la plateforme en fait, comme on l'appelait à l'époque de Spot. Mais là, c'est plus une plateforme, on appelle ça un bus. On voit également donc à l'intérieur là, ces boules rouges qui sont représentées ici, ce sont ça les actionnaires gyroscopiques, et on va y revenir après. J'ouvre le télescope là un petit peu plus, donc il est extrait cette fois-ci de l'instru du satellite. Alors le satellite, je ne vous l'ai pas dit, mais je vais le dire quand même clairement, le satellite est développé par Astrium. Le télescope, lui, est développé par Thales Alenia Space. Donc on trouve donc cet instrument, donc avec un tube carbone-carbone, et on va avoir ici le plateau qui vient porter le premier miroir, le miroir M1, on va y revenir après. Donc ce plateau, en fait, constitue un banc optique. Et la particularité de Pléiade aussi, c'est qu'on a cherché à améliorer la localisation des images. Et pour améliorer la localisation des images, le poste principal, c'est le poste de méconnaissance de l'altitude. Donc on a positionné nos senseurs, nos capteurs qui vont mesurer en fait la direction de visée, en fait, on l'a positionné sur le banc optique qui porte le miroir. Donc vous avez ici le cœur inertiel, le gyro, et puis vous avez trois star trackers qui vont nous permettre d'avoir une connaissance absolue de la position du satellite, de la direction de visée, en mesurant donc la direction du ciel étoilé. Alors, ensuite, on en arrive au système de contrôle d'altitude. Donc là, nous avons également pas mal d'innovations. Donc bon, le premier point, ce n'est pas une innovation. On utilise le système d'Oris diode pour se positionner en fait sur l'orbite et connaître la position du satellite à tout instant. Donc c'est un système qui est hyper précis, puisqu'on arrive, toute performance mesurée, à quelque chose de l'ordre de 70 cm en connaissance temps réel de l'orbite sur ce système. Ensuite, la localisation, je vous l'ai dit, c'est piloté par la connaissance de l'altitude. Donc on va avoir les trois star trackers dont je vous ai parlé, mais surtout quatre gyromètres à fibre optique. Alors ces gyromètres à fibre optique, développés aussi par Astrium, c'est une nouveauté sur Pléiade, c'est la première fois qu'ils volent. Et je pense que ce sont les gyros les plus précis du monde, en tous les cas du monde civil, commerciaux. Et c'est une vraie réussite. Tous ces instruments, tous ces capteurs sont actifs en configuration nominale, de telle sorte que, hybridant la connaissance de tous ces capteurs, on arrive en fait à améliorer la connaissance de l'altitude. S'il y en a un qui tombe en panne, ou plusieurs qui tombent en panne, ben on rentre dans des modes à dégradation douce. Excusez-moi, je vais le couper. Voilà, c'est zen. Hein. Donc, s'il y en a un qui tombe en panne, ou plusieurs, on peut les couper, les isoler, et donc on va avoir une perfo qui se dégrade. Donc on a préféré, dès le départ, avoir un système qui parte de pleine performance, et qu'on use, en fait, en espérant qu'on ne l'usera pas trop. Les actuateurs, donc ce sont les moteurs qui vont nous permettre de basculer le satellite. Classiquement, sur des satellites, ce sont des roues à inertie. Donc on accélère une roue et par conservation des moments cinétiques, le satellite part de l'autre côté. Je suis cerné. Là, ici, on a remplacé ces roues à inertie classique par des actionneurs gyroscopiques. Alors, un actionneur gyroscopique, vous en avez un ici. Ça comprend une roue qui est ici capotée, qui tourne à une vitesse constante de l'ordre de 4800 tours. Et cette roue est montée sur un cardan. Voilà le cardan qui est ici. Et ce cardan, qui a un mouvement de rotation autour de cet axe vertical, va permettre en fait de faire bouger le moment cinétique et de l'orienter. Donc, pour vous le représenter, si vous avez déjà touché une meuleuse, alors je sais que peut-être les dames n'en ont pas trop touché, vous ressentez ce couple gyroscopique. Donc vous avez la toupie qui tourne à vitesse constante, qui est la meule, et lorsqu'on bouge la toupie, elle donne un couple dans notre sens. C'est également le couple qu'on trouve sur les roues de vélo ou sur les roues de moto. Donc quand vous voulez faire tourner, vous lâchez le guidon, vous voulez faire tourner le guidon, ben vous penchez dans ce sens-là, et la toupie, donc la roue avant, va tourner dans notre sens. Bon, c'est ces couples gyroscopiques qu'on utilise pour aller basculer notre satellite. Et ça, c'est une grande nouveauté. Alors, ça nous permet d'avoir des chiffres d'agilité qui sont assez impressionnants, du moins pour les connaisseurs, quoi. On arrive à basculer notre satellite entièrement de 60 degrés en 25 secondes. Quand on sait que c'est un engin d'une tonne, c'est assez impressionnant. Quand je vous donne ces chiffres-là, c'est toute stabilisation confondue. C'est-à-dire qu'on le fait partir, il arrive, il se stabilise et on peut prendre l'image. Alors là, il y avait un petit film qui montrait le mouvement du bazar, mais ça ne marche plus sur ce Macintosh. On va passer. L'instrument, bel objet également cet instrument. Donc c'est un télescope qui est de type Korch, avec une focale de 13 mètres. Alors le principe du Korch, c'est assez simple. Hein. Vous avez la lumière qui rentre, le faisceau se réfléchit sur un premier miroir qui est ici, vient se replier, taper sur un miroir secondaire qui vient focaliser également le faisceau, qui traverse à travers une fente du premier miroir, qui vient se replier ici sur un miroir intermédiaire et qui vient taper sur le troisième miroir. Et là, on focalise sur le plan focal qui est au bout. Donc avec ça, vous avez 13 mètres de focale, un diamètre d'entrée de 65 cm. Et vous avez donc ici un plan focal qui fait, c'est quand même une bête de course, qui fait une cinquantaine de centimètres, avec une électronique qui est équipée derrière, faite donc par Thales, une électronique hautement intégrée, qui a également énormément participé à la compacité de l'ensemble du satellite, et donc à l'agilité. Petite nouveauté également, c'est que vous avez ici un mécanisme de refocalisation, un petit peu original. Il s'agit tout simplement d'un anneau en aluminium qu'on vient chauffer, et par déformation thermique, dilatation, on contrôle le mouvement du miroir M2 avec une précision largement suffisante par rapport à ce qu'on veut faire. Donc du coup, on n'a plus du tout peur de refocaliser nos instruments. Il y a quoi un mécanisme et c'est très facile à faire. On chauffe, on refroidit et on fait un petit peu ce qu'on veut. Les détecteurs de Pléiade. Là aussi, une autre nouveauté. Aux résolutions qu'on a, les détecteurs sont relativement petits, 13 microns, et ils rentrent peu de flux. Si on veut faire rentrer suffisamment de photons sur les détecteurs pour les transformer en électrons, il faut augmenter le rendement, augmenter les gains. Et pour ça, il y a deux options. Une première option qui consisterait à faire du ralenti sur image. C'est-à-dire on avance, et donc on va basculer au fur et à mesure pour garder le temps d'intégration plus long. Si on fait ça, on perd tout l'intérêt de l'agilité, donc on n'est pas capable d'acquérir beaucoup d'images. Donc la solution qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les TDI, Time Delay Integrator, qui sont en fait des matrices, une matrice de 20 lignes, chacune ayant 6000 colonnes. Et donc là, le principe consiste en fait à, ici vous avez un pixel qu'on veut imager au sol, donc l'empreinte d'une chaise par exemple, puisque c'est un pixel. Et si on fait descendre avec la vitesse du satellite, donc il faut guider, je vous le refais, il faut guider bien verticalement pour que tous les pixels de chaque ligne voient exactement le même paysage. Et on fait passer les charges ligne à ligne jusqu'à ce qu'elles arrivent dans le registre du haut, et là après on le vide. Voilà le principe du TDI. Donc ça fait une multiplication par le nombre de lignes du gain du détecteur. Au niveau de la couleur, les détecteurs couleurs qu'on a, c'est des détecteurs qui sont multilignes sur le même substrat. Donc il y a quatre registres qui sont déposés. Et donc au-dessus de ces registres, on vient mettre une vitre sur laquelle sont déposés des filtres interférométriques. Dit filtre allumette. Alors l'allumette, c'est plutôt pour sa forme. C'est un filtre qui est très très long et très très petit, qui a été assez difficile à générer, donc qui inclut les filtres bleu, vert, rouge et proche infrarouge, nous générant la couleur. Alors avec tout ça, on fait ça. on fait ce type d'image. Donc là, vous avez une image sur Tokyo, le centre-ville de Tokyo. Alors, c'est une image pour faire des posters, forcément, parce que ce n'est pas une image des plus utiles, parce qu'elle est très dépointée. Par contre, elle est très belle. Donc là, on a dépointé le satellite de l'ordre de grandeur à l'œil de 30 à 40 degrés. Et en fait, on voit les façades comme si on était en avion. Pléiade, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas qu'un satellite. C'est un segment sol aussi, c'est un système. Donc le système Pléiade ne marcherait pas s'il n'avait qu'un satellite. Donc il fallait avoir un segment sol performant, flexible et modulaire. Donc ça aussi, ça a été développé from scratch sur ce programme. Et donc on a déployé ce que vous voyez à gauche, quatre centres utilisateurs. On va commencer par la défense française, un centre à Creil, un centre jumeau ici, qui est situé en Espagne à Torrejón, pour nos partenaires espagnols qui sont des partenaires défense. Un autre centre utilisateur qui a l'air d'être à Bordeaux, mais qui en fait est à Spotimage, ex-Spotimage maintenant, Diastrium Géo, qui est à Toulouse. Et puis, des stations type station régionale de Spot, les SRD. Donc là, c'est pareil, c'est une station, on va appeler ça une RIRS, Regional Image Receiving Station, mais c'est une station locale, en fait, régionale. Et ces stations-là, on peut en cloner, les développer, en mettre un petit peu partout. Donc on en a déjà vendu, Astrium Geo, on en a déjà vendu deux au Japon, deux en Chine et une au Canada, avant le tir. Et là, ils sont en train de prospecter pour en avoir d'autres. Il n'y a pas que ça. Bien sûr, il y a également un centre de contrôle, 10 centres de contrôle dual, en fait, segment sol dual, qui est opéré par le CNES, déployé chez nous à Toulouse, qui va héberger toutes les fonctions de centre de contrôle classique, et puis également tout ce qui va gérer la programmation, et puis aussi un centre de qualité image pour distribuer à tous les utilisateurs les meilleurs paramètres de traitement architecture classique. On a travaillé également sur Pléiade pour améliorer la chronologie et donc arriver à programmer ce satellite de façon réactive. Alors comment ça marche? On a divisé le monde en trois parties que vous voyez séparées par ces pointillés blancs. Une zone Europe, une zone Asie, puis une zone Amérique. Et donc le matin, vers 6h du matin, sur la station de Kerguelen qui vient de clignoter, on va monter un message de programmation qui va permettre de dire au satellite, tu vas travailler et tu vas nous faire des programmations sur cette zone qui vient derrière. Donc on conçoit bien que si dans la nuit, avant 6h du matin, des utilisateurs ont besoin de nouvelles images, ils vont rentrer en fait en programmation et donc on va être assez réactif dès qu'on va rentrer sur cette zone. La zone, elle n'est pas coupée ici au hasard, elle est choisie en fait pour essentiellement pour le marché civil, en fait, mais pas que pour ça. C'est pour avoir une très bonne réactivité sur les zones de conflits potentiels qui intéressent la défense française. Donc on rentre en fait sur les zones du Moyen-Orient avec des données qui sont fraîches. Ensuite, c'est pas le bon bouton. Je vous refais Kerguelen. Ensuite, il y a Kiruna. Donc sur le coup de 13h, on a un passage ici qui en fait est comme ça, le passage qui est par ici. Et donc on vient charger un message de programmation qui va nous permettre d'être réactif sur la zone des États-Unis, qui est un marché potentiellement intéressant. Et enfin, le soir, sur une orbite qui est remontante, donc sur une orbite qui est comme ça, vers 23h30, on vient charger un message de programmation permettant de travailler sur l'Asie. Et la boucle est bouclée, on repart en 3-8 le lendemain. Donc on programme, vous avez compris, le satellite 3 fois par jour, plus après les fonctions de type direct tasking, dont je ne vais pas trop vous parler. Agilité impressionnante. Donc vous avez bien compris que notre satellite est agile. À quoi ça sert? Ça sert donc à essentiellement minimiser les conflits entre utilisateurs, sélectionner les prises de vue les plus importantes et prendre en compte également la nébulosité, les prises de nébulosité. Donc ici, vous avez le satellite qui va descendre ici sur l'orbite, on va le voir tout à l'heure, et qui va acquérir cette image, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et vous voyez en fait le mouvement que doit faire le satellite pour pouvoir accéder à ces images. Alors ici, j'ai représenté le fait qu'on avait un nuage et qu'on n'a pas pu prendre ces zones-là, donc on a tourné autour. Alors là, il faut que je quitte de nouveau ce merveilleux outil pour aller vous faire voir ça. Donc, tout va bien. Pour faire le clic droit, c'est comment? En plus, il faut avoir des doigts souples. Ouais, faites-moi clic droit, allez-y. Clic droit, ouvrir avec, faites-moi. Et puis plein écran.
Alors, ce n'est pas celui-là, c'est VLC, donc il faut les prendre.
que c'était pas si simple que ça. Hein. Voilà, vous avez le satellite ici qui est sur l'hémisphère nord. En fait, vous l'avez vu avec le panneau solaire qui brillait. En fait, il était pointé vers le soleil pour pouvoir charger ses batteries parce qu'on n'avait pas d'image à faire. Dès lors qu'on a des images à acquérir, on vient se pointer vers la Terre. Et là, vous avez vu un mode dit mosaïque avec élargissement de traces. Donc vous voyez, bon là c'est accéléré d'un facteur 10, mais malgré tout, par contre, la simulation est réelle. Donc on peut, avec Pléiade, arriver à faire des prises de vue, comme je vous l'ai montré, des mosaïques, mais on peut également faire de la tristéréo. Donc vous avez une première image qui a été prise, une deuxième qui est prise en condition de quasi-verticalité. On a le temps de faire autre chose à côté et de revenir prendre la troisième image. Donc ça, c'est une tristéréo. Ici, une prise de vue nuageuse, puisqu'elle est sur la Bretagne. Il n'y a pas de breton, d'habitude ça réagit. Bon. Alors, vous voyez là sur l'Espagne, vous allez voir ici une très grande mosaïque. Donc là, une première bande, une deuxième, je crois que la vidéo en fait trois. Sachant qu'on peut en enfiler jusqu'à cinq, voire six bandes consécutives, donc accéder à des zones qui font 100 km sur 100 km, voire 120. Ici, vous voyez un mouvement en lacet. Donc le satellite tourne sur lui-même pour orienter nos barrettes et pour pouvoir aller faire un bord de côte. Donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut en fait. Tout ça, c'est parfaitement guidé. Vous le voyez rebasculer. Et je crois que par là, alors par là, on n'a plus beaucoup d'images en ce moment, hein, mais bon. Par là, on part en stéréo. Vous avez eu deux premières images qui ont été faites pour les deux premiers, la première moitié d'un couple stéréo. Et là, le satellite vient faire la deuxième moitié et faire la deuxième image. Et il ferme ses prises de vue. Là, vous le voyez après de nouveau repartir avec un pointage dit SUP, Sun Pointed. Il s'est arrêté, pour aller mettre les panneaux solaires au soleil et récupérer de l'énergie dès qu'on n'a plus d'images à faire sur le pôle sud. Voilà le principe. Alors ça, c'était des simulations, hein, mais c'est pas des trucs. Enfin, c'est réellement, vous allez voir ce qui se passe dans la réalité. Il ne veut pas redémarrer, si, le voilà. Alors, le film, je vous l'ai montré. Donc, vous avez vu que cette agilité, elle permet, au-delà des trois points qui sont montrés en haut du slide, elle permet d'accéder à des modes de prise de vue qui sont relativement innovants. Alors, couple stéréoscopique, vous avez compris qu'on peut faire de la stéréo en un seul passage, donc avoir les mêmes conditions de prise de vue. S'il y a un nuage sur une image, vous avez le nuage sur l'autre. Avec Spot, quand on avait une image sur une image sans nuage, cinq jours après, il y avait peut-être des nuages. Donc, il fallait recommencer. Là, soit on a des nuages, soit on n'en a pas. Des triplés stéréoscopiques, donc ça c'est assez nouveau, hein, donc cette agilité nous permet de faire ce type d'image, mais vous allez voir qu'on peut aller encore plus loin. Cette tristéréo, j'en parlerai sur mon dernier slide, elle est quand même très très intéressante pour pouvoir déboucher des faces, accéder à des modèles numériques de terrain qui sont beaucoup plus précis que ce qu'on pouvait faire avant. Les mosaïques en une passe, et puis les suivis linéaires, voilà nos caractéristiques. Alors ça c'est une planche pour s'amuser, juste pour vous dire que Pléiade finalement c'est une Ferrari de l'espace. Alors ça, c'est une image Pléiade, bien sûr, hein, c'est une image prise par Pléiade Anna, ça devait être à mai. Donc c'est marqué dessus, je crois que c'est à Abu Dhabi, voilà, c'est un parc d'attraction en fait, le Ferrari World. Par contre, elle est très jolie. Alors, Pléiade Agile DJ4, hein. Ouais, sauf que ce qui n'est pas agile, c'est encore la vidéo. Non, elle ne marche pas. Elle ne marche pas. Il faut faire ça. Malheureusement. Il faut être patient. Hein. Full agilité. Je l'ouvre avec quoi celui-là? C'est clic droit, c'est à droite? Avec deux doigts? Faites-le. Hein. c'est pas tellement moi. Le Macintosh va bien, mais... Voilà, alors vous voyez l'agilité. Là, on n'est plus en simulation, hein, donc on est en télémesure réelle. C'était sur Pléiade 1A, 4 jours après le tir. On a démarré nos actionneurs gyroscopiques, on est parti du mode survie, ce qui est normal. Et on a voulu tester l'agilité maximale pour voir ce qu'on pouvait faire en termes de basculement de la caisse. Donc là, jusque-là, il ne fait pas grand-chose. À partir de là, voilà, vous voyez, boum, grand débattement, grand débattement, grand débattement. Alors, ce n'est pas le plus optimal d'un point de vue de la programmation. Un autre débattement. Et puis on va le voir qui dandine et qui revient et qui va faire un petit mouvement lacé, c'est ça, il s'est arrêté. Donc ça, c'est de la télémesure réelle. Et si on regarde par quoi ça se traduit, et c'est là que ça me casse tous mes effets, parce qu'il faut que je revienne à là. Hop. Ça se traduit par ça. Oui, c'est bien ça. Ça se traduit par ça. Regardez, hein. Voilà, ça se traduit par ça. Donc là, vous avez la télémesure qui a été plottée, et ce sont donc les vitesses angulaires de la caisse telles qu'elles ont été obtenues pendant cette manœuvre. Donc on arrive à basculer notre satellite à 3,4 degrés par seconde, stabiliser et prendre l'image. Alors les images, elles sont prises là, elles sont prises ici par rapport au manœuvre, donc c'est un temps qui est assez petit. Vous voyez que tout ça, ça se stabilise assez rapidement. Et pour vous montrer que c'est réalisé sans trucage, j'ai retrouvé l'image, donc c'était l'image de Venise qui avait été prise ce jour-là. Donc, 4 jours après le tir de Pléiade, on faisait déjà ça. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour faire une petite pause en image avant d'aller voir la suite. Alors, la petite pause en image, je vais avoir besoin de... On faisait déjà paume A. Double clic, c'est ça? Oui, c'est pas mal. Je progresse à Macintosh. Dans l'image. Et puis, lecture, diaporama, non? À plein écran, voilà. Allez, on va vous faire des, on va faire visiter le vaste monde vu par Pléiade 1B. Alors, toutes ces images que je vous montre, c'est des images Pléiade 1B, donc elles ont moins d'un mois. Donc ici, elles ne sont pas par ordre, elles sont par ordre en fait alphabétique, elles ne sont pas du tout par ordre de prise de vue. On est à Dakar, c'est juste pour vous montrer le type de résolution que ça donne en fait par rapport à sur un aéroport. Donc ça, c'est plutôt une image qui est à sensibilité militaire. Hein. Donc vous voyez très nettement les avions, les formes des réacteurs. On arrive à voir, le spécialiste vous dira quel est l'avion dont il s'agit. On voit également le marquage au sol. Oui, l'écran est bien quand même ici, vous êtes bien équipé. On voit le marquage au sol et on voit des choses comme ça en fait. Ici, nous sommes toujours à Dakar. C'est donc une image sur la plage de Dakar. C'est loin de représenter la fauchée complète de Pléiade. On ne peut pas présenter une image Pléiade, c'est vraiment trop grand. Donc là, j'ai juste fait un petit zoom. Et si on zoome complètement, voilà la résolution finale de Pléiade. Et je pense que ce qu'on voit sur la plage, ce sont des parasols. On continue. Là, on est toujours à Dakar. J'ai gardé cette image parce qu'il y avait quelques cuves, je crois, en haut à gauche. Ouais, donc on peut voir des structures, des tubes, des choses comme ça. Et puis surtout parce qu'il y avait ça ici qui me plaisait beaucoup. Vous avez un gros trimaran ici. Un gros trimaran, vous en avez d'autres ici qui sont assez sympathiques. Ça, c'est de l'art en fait. Donc ça va vous rappeler les images spot, hein, le spot art, hein, pour ceux qui connaissent, hein, qui ont apprécié comme moi. Par contre, on va se balader là-dedans. Donc sur cette image, on va aller un petit peu par ici tout à l'heure. On va aller par là, vous allez voir que c'est habité, et puis après on va aller voir des zones par ici, à la pleine résolution. On y va. Donc la zone qui est habitée, donc on l'a trouvée un peu par hasard, en fait, il y a un camp, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà, vous êtes à pleine résolution de Pléiade, donc si on suit la route, on arrive jusqu'au camp. Qu'y a-t-il là-dedans? J'en sais rien. Bon, ici c'est pour faire joli aussi, donc ces couleurs sont naturelles, il n'y a pas de reprise qui a été faite par un quelconque graphiste. Voilà, donc là, ce qu'on voit ici, quand même, ce sont des cailloux dans les dunes. Donc, vous voyez le type de résolution qu'on a, quoi. On s'en rendra mieux compte après. Bon, ça, c'est aussi joli. J'aime bien celle-là, qui est assez graphique. Là, on est un petit peu perdu, hein, mais vous allez retrouver des repères. Alors là aussi, un petit côté animal sur cette dune. J'arrête avec le spot art, hein, on va passer à des choses plus résolues. Chose plus résolue, en voilà là. Donc là, on est sur l'Argentine, et ça s'appelle la montagne aux 7 couleurs. Donc là, on est dépointé également à 50 degrés, et on voit cette route enlacée. Et donc, si on prend la route d'un petit peu plus près, vous avez le camion ici. Alors, je ne suis pas sûr que vous arriviez à voir le marquage au sol. Moi, je le vois ici. Hein. Si on regarde dans les lacets, on arrive à voir le marquage. Alors, on continue. Là, ici, nous sommes c'est le 8 Lagoon en Australie. Donc, c'est un lagon dans lequel, en fait, ils font décanter de l'eau. Et cette eau est chargée en petites crevettes ou plancton qui concentrent et ils en font des colorants. Donc, ça arrive à faire ça. Et on va voir l'usine. Voilà l'usine de traitement qui est sur la droite. Ici, toujours en Australie, c'est Sydney. Donc Sydney, vu un petit peu d'ensemble, avec l'opéra qu'on voit en bas à droite, le pont, le fameux pont, on va le voir zoomer, vous allez voir. Je vais vous amener en Australie. Je vous amène plus détaillé. Ici, c'est le port militaire de Sydney, qui est pas loin en fait de Circular Quay. Ce qui est intéressant, c'est de voir un paquebot ici qui est en cale sèche. Et vous avez ici des navires militaires où on voit également le marquage des hélicoptères et des choses comme ça. Voilà la vue à peu près pleine de résolution. Vous avez ici certainement un ferry qui est en train de partir. Vous avez l'opéra. Et vous avez le fameux pont ici de Sydney, l'Harbour Bridge, Circular Quay qui est ici. Et là également, on est dépointé, donc on doit être dépointé à une trentaine de degrés. Donc c'est des résolutions qui sont... Là, on est à une résolution métrique sur ce type de dépointage, forcément. Hein. Alors c'est très joli, dès qu'on a des bâtiments un petit peu élevés, ça fait des images qui sont superbes. Alors vous avez le bâtiment le plus haut de Sydney qui est ici. Donc ça, c'est une tour qu'on peut visiter avec une zone panoramique qui est ici. Sydney également, enfin pas Sydney, pardon, l'Australie, c'est 8 lagunes. Ça, c'est pas mal aussi de s'arrêter un petit peu sur cette image. L'image est saturée, là, telle que vous la voyez ici, ce sont des sables blancs. Elle est saturée sur cet écran parce qu'on l'a reproduit en 8 bits. En fait, on a eu 12 bits, donc l'image n'est pas du tout saturée. Donc ce qui est difficile, en fait, c'est d'arriver à doser l'histogramme pour arriver à la présenter. Voilà, c'est des images qui sont belles. Hein. Avec ici un petit jet ski, je suppose. Et un petit bateau, là. On est à Phnom Penh, au Cambodge. Et si on zoome au Phnom Penh, donc là on voit, je ne sais pas trop ce que c'est, ça doit être des dragueurs ou des filets. On voit les filets ici, des filets. On arrive à voir des objets qui sont plus petits que 70 cm, à condition qu'ils soient sur fond uniforme, parce que ça pompe le pixel en fait. Sydney, bon, graphique également, c'est pour vous montrer les belles couleurs qu'on arrive à faire. Donc la bande bleue, en fait, c'est grâce à la bande bleue qu'on arrive à faire ces couleurs naturelles. Hein. Phnom Penh. Là, si l'écran est bon, je pense qu'il l'est aujourd'hui. Là, vous voyez le pavage au sol en fait de cet hôtel ici. On voit les carrelages. Le palais impérial en haut à droite, toujours à Phnom Penh. Je suis jamais allé, mais qu'est-ce qu'on peut visiter avec Pléiade? Un petit cœur en Croatie. Il était nuageux, mais on l'a quand même gardé. Ça, c'est Dubaï. Alors, Dubaï, vous avez ici la Burj Khalifa, donc 800 et quelques mètres de haut, 828. On va zoomer. Voilà la Burj Khalifa, elle va jusqu'ici, avec son ombre qui va jusque-là, donc les puristes pourront la calculer, 828. Et puis tous les bâtiments. Cette ville, c'est de la folie. Une autre vue de Dubaï. Ça paraît petit à côté de la Burj Khalifa, pourtant c'est impressionnant déjà. Toujours Dubaï, cet hôtel, c'est là où il y avait eu un cours de tennis, je crois, enfin, quelqu'un qui avait joué au tennis sur l'héliport. Ça, c'est en Éthiopie, c'est pas loin d'un volcan. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est que ces couleurs rouges, c'est pas de la fausse couleur, c'est de la couleur naturelle. Et puis, si on zoome, je pense qu'on arrive... Non, on zoome pas sur celle-là. Là, on voit également, donc on est très près du cratère, et on voit que c'est habité ici aussi. Je ne sais pas si c'est une base scientifique. Ça fait des couleurs assez originales. Bizarre, elles ne sont pas dans l'ordre, c'est pas grave. On va la sauter, ça c'est la version pas zoomée. Ça, c'était la première image officielle qui a été remise au ministre de la Défense, qui a l'honneur d'habiter l'Orient, d'où cette image. Alors voilà, si on zoome dans l'Orient, dans l'image, ben on voit également là ici des catamarans de course qui sont à la cale ici. Il y en a un autre qui est en réparation par là. On voit, bon, toujours pareil, en jouant sur la dynamique, cette image, par contre, a été très soignée avec un graphiste. Si on joue sur la dynamique, on voit qu'on arrive à trouver la vase, qu'on arrive en fait à avoir le fond du port. Donc il y a beaucoup d'informations dans ces images. Là également, le fort Vauban qui est en haut à gauche. Et une île qui a une forme de canard à droite. Des belles images également. On arrive à rendre l'eau turquoise de l'Orient. C'est très peu truqué. Le cœur de Yann Arthus Bertrand en Nouvelle-Calédonie, le cœur dit de Vaux, VOH. Ça, c'est une île qui se trouve dans les terres australes. Ça, c'est une ville que vous devez reconnaître. Alors là, c'est une première, en fait. On s'est amusé à faire une image très, très, très dépointée. Donc, elle est dépointée à 50 degrés, cette image. Donc, il n'y a pas de limite, en fait, au niveau du domaine de performance. Donc, quand on dépointe comme des fous, on a une résolution qui s'apparente à la résolution de spot. Là, on est à 2 mètres, 2 mètres 20. Ceci dit, c'est la première fois qu'on arrive à voir les façades ici des Jacobins. Vous avez Saint-Cernin que je me repère. Je ne sais plus où elle est. Vous l'avez repéré avant moi ? Plus à droite, hein. Hop. Bon, vous l'avez trouvé. Moi, elle est là, voilà. Je la vois. Voilà. Donc, c'est cette image qui est parue sur la dépêche. Ici, on est à New Delhi, donc vu d'ensemble d'un temple, visiblement. Et si on va dans le temple, ben, voilà ce qu'on voit. Donc, celle-là, je vous la présenterai tout à l'heure en 3D. Ça, c'est Bagdad. Voilà le palais de Saddam Hussein. Il avait de l'argent. Un pont qui est assez joli, avec la structure métallique. La très grande mosquée, ils appellent ça la Huge Mosquée. Elle est vraiment très grande, je pense. Sachant qu'à côté, il y a la grande mosquée, avec pas mal de minarets. Là, sur la gauche, vous voyez le monument du soldat inconnu. On va zoomer. Il n'est pas petit, ce monument, quand même. C'est un peu mégalo. Ça, c'est des avions, des MiG, en fait, qui sont parqués ici. Ça doit être un musée. Vous voyez la taille du bâtiment, à côté des voitures. Ici, le monument des martyrs. Pareil, un truc assez impressionnant. Et ici, c'est joli. Donc, c'est surtout pour avoir les hangars bleus qui sont très, très bien rendus. Ce bâtiment, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est un stade. Donc là, vous voyez, on est à peu près à la pleine résolution, on doit être dépointé de 10 ou 15 degrés. Donc il n'y a pas beaucoup de dépointage là-dessus. On est à Rome. Rome, on va se balader. On y va. Le forum, avec le Circus Maximus. Le forum qui est ici. La machine à écrire, là, qui est là. Le Colisée. Alors Rome est assez intéressante. C'est une image qui a été prise à l'hiver. Hein. Enfin, toutes celles qu'on a sur MB sont prises en hiver. On voit les gens ici, on voit des personnages, en fait. Hein. Tous les petits points qu'on voit, c'est des touristes. L'Isola Tibérine. Et le Trastevere qui est par ici. Le Palais Saint-Ange. La Piazza Navona. Qui est ici. On avait de la chance parce que les arbres avaient encore gardé leurs feuilles. Donc c'est assez joli. Et le Vatican. Là encore, on voit les touristes, ou les pèlerins d'ailleurs. Ça, c'est au Japon, purement esthétique, ne me demandez pas où c'est. Shishi quelque chose, Shishi Kamata ou un truc comme ça. Voilà. Là, je vous amène à Sendai, la ville qui a souffert du tsunami au Japon, à côté de Fukushima. Et donc a été prise il y a 8-10 jours cette image. Donc vous allez voir c'est la raffinerie en fait qui avait brûlé en fait suite au tsunami. Donc je sais, c'était par ici en fait, l'incendie a eu lieu. Visiblement ils n'ont pas encore tout remis en service. Voilà. La zone. Alors ça c'est des images qui sont intéressantes en fait pour des experts militaires en fait qui peuvent avec ça voir le type de résolution qu'on a. Toujours du côté de Sendai, ce qu'on voit ici, c'est leur système de brise-lames. Donc, ils enterrent des blocs qui leur permet de réduire l'impact des tsunamis. Une autre vue ici aussi, on en voit plein, en fait, avec ça crée des canaux artificiels. Tokyo, fortement dépointé. On va aller voir ici en plus de détails cette boucle-là, qui est la boucle qui permet de lancer le métro aérien, de lui faire monter le pont. Et sous lesquels passent les navires. Donc là aussi, on est très dépointé. Ça, c'est une tour de 52 étages qui s'appelle la Mori Tower, pour donner une idée de l'échelle. Vous avez le palais impérial, ici, avec à côté le quartier. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce quartier. J'ai oublié. Comment ? Ginza, c'est ça, non ? Ouais. Ginza, ouais, c'est ça. C'est celui-là. Dans Tokyo, ils ont fait pousser récemment, donc l'an dernier, ils ont ouvert en tous les cas une tour que vous voyez ici, qui est la Tokyo Skytree. Donc c'est le deuxième bâtiment le plus haut au monde, qui fait 629 mètres, celui-là. Donc il est pas mal. Là aussi, c'est très dépointé. Hein. Et là, vous avez le quartier de Shinjuku en haut, avec les gratte-ciels. Donc on est vraiment loin, là aussi, de l'immensité de l'image Pléiade. Voilà les gratte-ciels fortement dépointés, vus sous un autre angle par rapport à celle que je vous ai montrée tout à l'heure. On avance un peu. Leur tour Eiffel locale, en bas, qui est légèrement plus grande que la nôtre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Une vue du port, en dépointé aussi. Là, on est au Mexique, avec le palais, un palais des arts locaux, amérindiens. Ici, c'est le palais de justice, là où a été libérée Florence Cassé. Et ce qu'on voit ici, c'est assez amusant, on va zoomer. Donc là, d'abord, il y a une gare de bus, gare de triage de bus. Et vous avez ici une espèce de marché couvert. En fait, ce qu'on voit, c'est des tentes. Quand on le voit de près, c'est des toiles qui sont tendues sur la route pour faire un marché couvert. Ça, c'est de l'art. Donc, c'est au Pérou, des salines. Des salines zoomées. Je ne sais pas si c'est des tas de sel qu'on voit, peut-être. Ici, c'est en Chine, sous la neige. Et si vous regardez en haut à droite, vous avez une belle centrale. Voilà la centrale, une fois zoomée, de pleine résolution. Toujours en Chine, de l'art, des strates géologiques. Si on zoome, bah c'est les cailloux. C'est Saturne. Ah, Saturne, je peux vous la montrer si vous voulez. La gare, une gare de... C'est où ça? Shanghai. Voilà un échangeur, l'échangeur du Palais de Shanghai. Évidemment, ça a l'air plus fluide. On est en Sibérie, tout est gelé. Toujours en Sibérie. Ça fait des belles photos, hein, des caisses de neige. Donc ça, c'est un cratère d'un volcan dans un volcan aussi. Donc c'est un volcan qui est reparti en éruption et qui a refait un deuxième cratère, en fait. On est à Barcelone, le Barça. Bon, celle-là, je vais passer vite, c'est parce que juste après, il y a ici le Real Madrid. Donc, alors forcément, comme j'allais voir les Espagnols, j'étais obligé d'avoir une certaine neutralité. Les arènes. Valence. Valence, avec ici un parc d'attractions pour enfants qui s'appelle le parc Gulliver, et vous avez Gulliver qui est là. Et là, tout un palais en fait d'exposition là, qui est à Valence, qu'on voit ici, où ils ont en fait asséché le lit de la rivière, je crois, et puis construit ces monuments qui sont assez impressionnants. Alors c'est des monuments qui sont en verre, d'où ce sentiment d'éblouissement en fait. Hein. Mais là, encore une fois, on n'est pas complètement ébloui. La seule partie qui sont éblouies sur les détecteurs, c'est ça ici, et le reste ne l'est pas. D'ailleurs, dans ces détecteurs, on a ce qu'on appelle un dispositif anti-éblouissement latéral qui fonctionne parfaitement bien, donc qui évite de faire dégouliner des surexpositions de ligne à ligne ou de colonne à colonne, comme on pouvait avoir sur les caméscopes ou sur des détecteurs concurrents. Les Américains, ils connaissent, ils ont mal géré ça. Mais ils l'ont fait avant nous. Le port, donc on voit les élingues, en fait, des bateaux, on voit les grues, on voit le type de détails qu'on arrive à voir. Hein. Toujours le port, donc un navire militaire ici, et puis là un conteneur, un porte-conteneur. L'Himalaya, dépointé 50 degrés. Et là, ça donne envie d'y aller, hein. Ça a l'air facile. L'Everest. Une avalanche ici, ou du moins un glissement de quelque chose. On dirait des vues d'avion. Hein. Et le glacier, piste noire par excellence. Ça, c'est le Potala, à Lhasa, au Tibet. Une des premières images de Pléiade 1B, en Turquie. Et vous avez ici un avion qui décolle, avec son ombre, ce qui est un coup de chance, hein. Soyons honnêtes. Mais pour une première image, c'était pas mal. Oui ? Alors oui, là, effectivement, quand on dit que c'est la première image, c'est vraiment la première image. Elle est sortie, celle-là, de la boîte à J+3, avec des réglages du mécanisme de refocalisation mais qui a quand même tenu compte de l'héritage Pléiade-Hingra, parce qu'en fait, on avait anticipé le calage thermique quand on serait en orbite, et donc on avait préchauffé l'anneau de refoque pour aller se focaliser dans le sens où on pensait que ça partirait. Ben, je crois qu'on n'est pas trop mal tombé. Bryce Canyon, sous la neige. On va zoomer. Voilà Bryce Canyon, avec un parking qui est ici. Monument de Vallée, le Visitor Center qui est ici. Après, on va zoomer. Voilà le fameux rocher de John Wayne. Toujours est de la neige. Voilà d'autres. Alors, ce qui est pas mal aussi là-dessus, quand même, on voit ici quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a une radiométrie sur 12 bits. Certes, c'est utile pour éviter les éblouissements, mais on a aussi un instrument qui n'a pas beaucoup de bruit. Et donc, on arrive en fait à tirer la dynamique et à aller voir dans les ombres. Donc ça, c'est... Quand je dis qu'il n'a pas beaucoup de bruit, il n'en a pas du tout, en fait. On est à 150 de rapprochement sur bruit. Ici, vous êtes à New York, Manhattan, si on zoome, le nouveau bâtiment là, qui est en train de se construire, avec Grand Zéro qui est ici. Donc là, on était dépointé à 30 degrés. Un pont. Une vue de... comment il s'appelle ? Central Park. Manhattan Nord, en fait, hein. Et l'Empire State Building qui est ici. Mais on n'arrive pas à voir King Kong. Ici, San Francisco. Voilà les gratte-ciels. Le Golden Gate. Ah, celui-là, on a beaucoup de chance parce qu'il n'y avait pas de brume. D'habitude, c'est brumeux. Ah, pour une fois. Ça, c'est une image qu'on fait chaque fois. Donc, avec ce type de satellite, c'est le cimetière d'avions de Tucson, en Arizona, où ils entreposent des milliers d'avions. Et donc, on va zoomer progressivement. C'est un cimetière, en fait. Hein. Pas que, je pense, hein, parce qu'il y a quand même des avions qui sont... ceux-là, c'est certainement pas des cimetières. Hein. Ça, ici, vous avez des petits hélicoptères, on voit les pales. Hein. Celui-là, je pense pas qu'il soit arrêté non plus. Il est en train de partir. Hein. Alors, par contre, celui-là, ici, je pense qu'il est un petit peu démonté. Il y en a d'autres qui ont aussi quelques ailes un petit peu à plat. Hein. Alors, je crois qu'on est au bout puisque ça n'avance plus. Donc, je reprends ma présentation. J'ai bientôt fini. Hein. Alors, vous avez dit agile. Ah, ça ne marche pas, ça, encore. Surprenant. Vous avez dit agile. Donc, je vous ai dit qu'on pouvait faire de la tristéréo. On peut faire plus que de la tristéréo. On a fait de la 20 stéréo ou 30 stéréo. Donc, on est capable, en fait, de dépointer entre moins 50 degrés et plus 50 degrés et d'aller enfiler, en fait, des prises de vue en tournant sur place. Et donc, prendre plusieurs fois, N fois, l'image. Et là, ça n'a pas marché non plus, je parie. Hein. On va essayer pour voir. Si, ça marche. C'est un point move. Tac. Alors voilà, c'est la première vidéo de l'espace. Je crois que je suis désolé, comment on peut faire ça? Le matériel nous lâche. Ah, bon, arrêtez-le là-dessus, moi ça ne me dérange pas. Il doit être capable de gérer les deux, normalement, en notre époque, non? Je suis pas habitué au Macintosh. Ah ben le voilà, vous l'avez ici, c'est bon, c'est arrivé. Voilà, donc les 30 images qui sont enfilées les unes après les autres, on les a traitées en fait en vidéo, en mode vidéo, et donc vous avez ce type d'animation, où on peut voir bon, de l'activité sur site, on peut voir passer un go fast en haut à droite, là. Là, il s'est arrêté. Je vais vous en passer un autre. Oula. Oula, alors là. Et je sais plus où je suis, hein, c'est. Un autre, on va essayer remonter d'un cran. On va essayer celui qui s'appelle Rio.move. Rio.move. Alors d'ailleurs, c'est du The Artist. Voilà, Rio.move. Donc 20 acquisitions faites 14 mars 2012. Et là, on a la chance de voir décoller des avions. Alors, attention, il décolle. Hop, voilà, il est parti. Alors, il y a cet avion qui est assez original, là, vous voyez, qui est en train de partir et puis qui va passer par là, qui va aller se ranger. Voilà, et puis qui redécolle. En fait, c'est un rebouclage de la vidéo. Hein. Le pilote n'est pas complètement idiot, je pense. Donc voilà, donc, alors c'est plus à titre démonstratif, en fait, pour vous faire voir le type d'agilité qu'on peut avoir et ce que ça nous permet de faire. Ça nous permet aussi de faire d'autres choses qui sont ici. Ça nous permet de faire ça. Ça, disais-je. Voilà. Donc, le 8 avril, DESA a perdu le satellite Envisat. Hein, donc, panne, survie, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ils nous ont demandé de les aider, en fait, d'aller faire une image sur le satellite. Donc, on a dépointé notre satellite Pléiade qui passait dessous. On a basculé vers le haut. Et on est allé faire cette image pour, bon, qui est fortement défocalisée, mais qui permet quand même de voir que le panneau solaire est entier, que tout allait bien à l'extérieur. Donc, c'est une panne qui n'a rien à voir avec une météorite. Ça les a aidés également pour connaître l'altitude d'Envisat. Mais ça n'a pas permis de le sauver. L'agilité, très rapidement, on s'en sert également pour s'étalonner. Donc, si on est capable de prendre un Envisat, en fait, ce n'était pas pour s'amuser, c'était parce qu'on est capable de prendre des étoiles. Et donc, on va s'étalonner sur les étoiles. On tourne l'instrument vers les étoiles, on regarde le ciel étoilé, et à partir de là, on s'en sert pour étalonner la meilleure focalisation en regardant les taches étoiles, mesurer la netteté relative des images, donc la fonction de transfert de modulation. On s'est également assuré avec ça de l'absence de micro-vibrations sur les images en faisant défiler les étoiles pour voir si elles étaient ondulées ou si elles étaient droites, en fait, pour sortir les fréquences. On se tourne également vers la Lune régulièrement pour étalonner la réponse radiométrique de l'instrument. Alors on ne fait pas ça pour s'amuser, c'est parce que c'est très intéressant de partir vers les étoiles. On ne gêne personne, on fait ça de nuit. On ne gêne personne sur les parties de jour et on n'est pas embêté par les nuages. Donc on a une rapidité d'étalonnage qui est diabolique sur Pléiade. Alors, Pléiade 1A, on s'est amusé cette fois-ci à ne pas prendre une étoile, mais à prendre une planète. Alors, ce n'est pas fait pour ça, mais on a quand même réussi à attraper 4 satellites de Jupiter. 2, 3, il est ici, et le quatrième. Alors, évidemment, c'est par rapport à ce qu'on peut faire en astronomie, ce n'est pas terrible. Il faut dire qu'on est au 10 millième. Hein, donc, c'est une prise de vue au 10 millième, c'est quand même pas mal. Alors, quand Pléiade 1B donc, est arrivé, on s'est dit on peut faire mieux. Donc là, on a fait une prise de vue de chaque côté de chaque orbite, pendant 9 orbites consécutives, on les a montées en vidéo, et là on voit tourner la planète Jupiter, on voit défiler sa tache rouge, et derrière, le satellite qui tourne, c'est Io. Ouais. Ça, c'est vraiment pour le fun. Pour le fun, mais quand même, c'est quand même assez intéressant de voir qu'on distingue très très nettement la TV Eduardo Arnaldi, qui est dockée ici. Donc on a pris cette image juste avant le dédocking. Là, ici, c'est de la photographie sportive. Hein. Donc on est sur des orbites qui sont relatives. Pléiade descend comme ça, la navette passe comme ça. Et donc les vitesses relatives, c'est du 7 km par seconde. Donc il faut aller assez vite. Bon, je ne pense pas qu'on puisse faire ça avec d'autres satellites que Pléiade. Oui, ah oui, absolument. Alors, on va passer au monde de la 3D. Donc, je vous ai dit qu'on pouvait faire de la stéréo avec Pléiade. Donc, ici, vous avez un exemple de modélisation de paysage 3D qui est obtenu à partir d'images Pléiade. Donc, on est sur l'Everest avec un B sur H, alors une base sur hauteur, c'est-à-dire l'écartement des prises de vue, de 0,09. Donc, on a reconstruit cette fois-ci l'Everest par corrélation des images, bien sûr, et puis par lancer de rayons, intersection des directions de visée. Et on a positionné point par point la radiométrie correspondant à chaque image de l'Everest, à chaque face de l'Everest. Avec ce type de technique, certes gourmande en temps de calcul, on arrive à boucher des faces cachées, en fait, puisqu'on peut faire ça avec plusieurs images. Donc, c'est des corrélations qui sont massives. Hein, donc, et puis, on vient après, point par point, redessiner l'Everest. Et on peut densifier tout ça comme on veut. Et après, là-dessus, après, bien sûr, si on a des moyens de calcul puissants, on peut faire du survol 3D sur l'Everest à la résolution de 70 cm. On ne l'a pas fait au CNES parce qu'on a déjà consommé 4 heures de CPU du plus gros calculateur, on s'est arrêté là. La précision altimétrique, elle est quand même pas mal. Elle fait 1,50 m avec deux images. Et si on prend des triplés stéréo, et c'est là où on a l'intérêt d'avoir des triplés, on descend à 1 mètre. Donc on est capable, avec nos satellites, de mesurer une hauteur, une altitude de 1 mètre. Donc si on veut jouer sur le record de précision de l'altitude de l'Everest, ben, il suffit qu'on en calcule plusieurs comme ça et on poste la réponse sur Internet. Je pense qu'on va gagner. Alors, on va aller voir maintenant du 3D. Alors, pour ça, je vais vous équiper de lunettes. Vous mettez l'œil rouge à gauche. Sinon, vous allez avoir tout en creux. Je vous demanderai à la fin de me les rendre, les lunettes, s'il vous plaît, pour les successeurs. Non, pour polariser, il faudrait avoir les projecteurs polarisés et bon, ça devient beaucoup plus cher. Rouge à gauche, oui, c'est ça. Rouge à gauche, gardez vos lunettes dessous. Hein, si. Le rouge à gauche. Vous en avez assez? Moi, je sais pas faire. Non, on peut essayer. Je sais pas l'interrupteur, je sais pas où il est. Mais à l'entrée, là. Allez-y, vous pouvez éteindre la lumière, ce sera aussi bien. Tout le monde en a eu, parce que j'en ai d'autres, sinon. Ah non, c'est pas bon, c'est l'autre. Bon, on va avancer quand même. Hein. Donc, vous retrouvez Bagdad ici de nouveau. Alors, on est sur des faibles B sur H. Donc, l'écartement en fait des prises de vue, l'écartement relatif est assez faible, ce qui fait qu'on a un confort visuel qui est très bon sur ce type d'image. Je vais vous en faire voir d'autres où on a un B sur H beaucoup plus fort et ça commence à piquer aux yeux. Hein. Voilà. Bagdad. Vous avez une mosquée à droite, je pense. C'est bon, vous êtes confortable? On avance. Le stade qu'on a vu tout à l'heure, donc le stade, vous le voyez à gauche, on voit très bien les gradins se relever. Et puis, là, cette espèce de truc, je ne sais pas ce que c'est un bout de terrain. À droite, c'est en construction aussi, le stade. Alors, je vous ai dit que j'allais vous agresser un petit peu, une séance d'orthopsie, hein, voilà. Ça, c'est, je ne me souviens plus, c'est sur la côte du Sénégal. Le Cap Vert, voilà, c'est ça. Des terrasses. Oui, c'est un petit peu exagéré. Il y a aussi le fait que quand on les voit projetés, les pixels sont trop gros sur le projecteur et donc l'écartement est beaucoup plus important ici que sur l'écran. Hein. Vous avez le Sphinx par ici. Ici, le Sphinx. C'est pointu, hein. Sur mon écran, ça allait beaucoup moins. Hein. Ah, j'ai fait venir un truc. Voilà. De nouveau au Cap Vert. Ah non, vous allez voir, je vais vous amener dans un précipice, vous allez avoir peur. Hein. Là, vous avez... Saisissant, hein. Il faut escalader la falaise. Hein. Alors vous voyez, si on arrive à sortir du relief avec les yeux comme ça, bon, les ordinateurs le sortent aussi très bien parce que ça corrèle parfaitement. Les images, elles sont très très bonnes en termes de géométrie et on n'a pas d'erreur. Là, c'est un petit peu. Là, il y en a qui décrochent. Hein. Celle-là, je reconnais que ce n'est pas la plus facile. Hein. Allez, on passe. Cap Vert, encore. Alors voilà, l'image qu'on a vue tout à l'heure, en relief à Delhi. Donc là, vous avez la vue à peu près d'ensemble. Et on va aller zoomer sur les... Je vais vous laisser le temps après d'accommoder. Voilà, sur le palais. Vous avez ici un dôme. Et vous avez ici une colonne aussi, qu'on arrive très bien à voir. Alors, vous voyez le confort visuel qu'on peut avoir sur ces faibles B sur H. Ici, je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors là, là, ça va être plus difficile pour moi. Où c'est qu'il est, mon bazar ? Là ? Non ? Oh, si, ça l'a fait, c'est bon. Je voulais vous faire voir ça, en fait, ici. On arrive à voir, à percevoir la texture en relief de ces toits. Si on se concentre. Hein. Vous êtes peut-être fatigué. Un bel arc de triomphe avec aussi une colonne au milieu. Toujours à Delhi. Un stade de foot à Delhi. Alors, ce peut-être pas du foot, d'ailleurs. Un fort Vauban à Delhi. Je ne pense pas que ce soit lui qui l'ait fait. Hein. Par contre, il y a une belle enceinte. Ici, c'est original. Je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a des escaliers, une toiture. Il faudra qu'on se renseigne. Alors, voilà. Alors, celui-là, bien sûr, il n'y a pas trop d'Italiens dans la salle. Alors, j'ai quand même fait ma vanne classique. C'est le premier. C'est une prise de vue qui est prise au nadir. Ce n'est pas le satellite qui a dépointé, c'est le bateau. Alors, blague à part ici, donc, ils sont en train de le restaurer. Donc, vous voyez, ils sont en train de mettre en place des structures sous-marines pour aller le faire basculer. On va certainement y revenir, faire un petit reportage là-dessus pour voir l'état d'avancement. Alors, cette image, on l'a postée sur le blog du CNES. Et ce qui est amusant, c'est que le Costa Croisière a repris l'image directement, enfin, le lien, et a mis ça sur son site. Le mont Fuji au Japon. Oui, il y a de la neige. Hein. Alors, vous reconnaissez Tokyo, donc la rampe de lancement du métro. La voilà. La rampe de lancement en 3D, pleine résolution. Saisissant, non ? Alors, celle-là est amusante aussi. Vous l'avez peut-être vu sur Internet. On est passé sur la Mecque. Et on a eu la surprise, parce qu'on ne savait pas, qu'ils ont construit une espèce de tour qu'on voit ici. Cette tour, c'est le deuxième bâtiment le plus grand du monde, un bâtiment habité, c'est un hôtel. Et elle fait 610 mètres, je crois, donc c'est juste après Burj Khalifa. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a une horloge dessus. Et cette horloge, ben, nous donne l'heure du passage du satellite. Et on arrive à lire l'heure depuis l'espace, donc ça n'est pas privé. Bon, il faut dire qu'elle fait 40 mètres quand même, l'horloge, donc ça aide. Hein. Alors après, ici, je ne suis pas grand spécialiste, mais il y a le mausolée, enfin le... Oui, et puis donc les pèlerins qui tournent autour. Hein. Alors, ce qui est intéressant ici aussi, c'est de voir ça ici. Vous avez tout un foisonnement de grues qu'on devine. Hein. Enfin, on fait plus que les deviner, en fait. On les perçoit, on les voit, ces grues-là. Je pense qu'ils sont en train de construire un deuxième bloc d'immeubles juste à côté qui va également accueillir pas mal de monde. Si on se balade sur la Mecque et si on part vers l'est, on arrive à Mirage, je crois que ça s'appelle. Ça, c'est Al-Jamara. Al-Jamara, c'est un temple, je crois, qui participe à leur religion. Minin, peut-être, oui. Et ce qu'on voit à droite, c'est ces taches blanches, en fait. Si on zoome, et si on se promène, on voit en fait une ville complète pour accueillir les pèlerins. C'est une ville de tentes. Bon, des tentes en dur, en fait, hein, en permanent. Et ce qu'ils font, 4 km sur 4, en fait. Et ils ont creusé la montagne. Donc, si vous regardez à droite, à gauche, on voit des falaises qui ont été faites hein, pour pouvoir mettre ces tentes à plat. On les voit également sur des strates ici, hein, des strates de tentes. Et ça part après vers l'est. Avec une mosquée ici qui pousse parmi les tentes. Il ne faut pas se perdre, hein. Ici, on est où ? On est à, je ne sais plus, Singapour. On est à Singapour, ici. Ça, c'est une des premières images sur un volcan. C'est là où je vais vous faire mal aux yeux. Donc, les falaises de lave et le canyon. Bon, qui doit quand même être assez vertigineux. C'est exagéré, certes, mais pas trop. Hein. Ça, vous devez reconnaître aussi, c'est Toulouse. Donc Toulouse, avec une vue de Blagnac, l'usine Lagardère qui est à droite. On va zoomer. On est où ? On est à Blagnac aussi, Ce qui est amusant, c'est ce bâtiment ici qui est en train de se faire démanteler. Et on voit les structures, on voit où ils en sont. Bon, après, vous avez des avions ici qui, je pense, ont l'empennage un petit peu haut. L'usine. Je crois que c'est le musée, ça. Ce ne serait pas un Concorde, ça ? Voilà. Alors c'est pour l'académie, c'est le côté Académie de l'air cette fois-ci, hein, et pas de l'espace. Toulouse en 3D aussi. Très dépointé aussi. Hein. Donc voilà, vous avez quoi ici ? Ça, c'est Saint-Étienne. Bon, le B sur H, là encore, est exagéré. Hein. C'est sûr que le stadium, vous l'avez jamais vu comme ça. Le Colisée, donc. Allez, on va voir les avions. Là aussi, on a exagéré volontairement le B sur H pour voir ce qu'on pouvait faire en discrimination de petite hauteur. Et donc, vous voyez, les empennages des avions, etc. Voilà, vous en avez d'autres ici aussi. On voit très bien la différence ici entre cet avion, empennage haut, et cet avion, empennage bas. Voilà d'autres. Ça, c'est Las Vegas. Las Vegas, c'est pas mal aussi. Voilà. Las Vegas, belle structure. Las Vegas, très belle structure. C'est profond quand même par là. C'est San Francisco. Ouais, les pierres, c'est ça, ouais. San Francisco, le pont. Le Bay Bridge, c'est celui-là, oui. Le bâtiment pyramidal. Ici aussi, c'est un chantier, donc on voit des grues. Et on voit ici, ils sont au niveau des fondations, donc on voit que ça est en dessous, en fait. Hein. Des navires, donc un militaire. Ça, c'est l'Everest. En 3D. On a quelqu'un chez nous qui aime bien les montagnes. Alors ça, c'est pas l'Everest. Donc je vous disais qu'on s'est étalonné sur la Lune. Donc là, pareil, on a pris la Lune de part et d'autre de l'orbite. On a monté ça à l'anaglyphe et ça fait un beau ballon de foot qui vient vous dire bonjour. Et voilà la Lune, donc avec une résolution de 300 mètres, vu la distance. Donc le pixel fait 300 mètres. Tiens, on est revenu là-bas. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Et c'est la dernière. J'abrège vos souffrances. Voilà, dernière planche. Donc, bon, vous les ramasserez après. Hein. Vous faites les circuler en remontant. Je vous fais confiance. Donc, le deuxième satellite, il a été lancé le 2 décembre. Il sera formellement déclaré apte au service le 19 février, c'est-à-dire très bientôt. J'ai abusivement intitulé ma conférence « Système complètement opérationnel », mais j'y crois beaucoup. Je pense qu'on n'a aucun risque sur le fait que la recette en vol soit acceptée. Donc, la mission, elle est assurée sans interruption depuis maintenant plus d'un an, avec 100% de disponibilité. On n'a pas eu une seule panne sur ces satellites. Donc, on n'est jamais passé un veille forcé, jamais passé un survie pour l'instant. Les centres utilisateurs, ils fonctionnent à pleine capacité, donc à deux satellites dès maintenant. Et donc, les stations export, je vous l'ai déjà dit, sont déployées. La qualité d'image, elle est excellente. Et donc, je termine par ma dernière phrase. Quoi. L'Europe et la France sont entrées dans le cercle fermé des organismes qui maîtrisent la haute résolution civile. Et c'est pas un vain mot. Voilà, je vous remercie pour votre attention.